Chapitre 27. Leurs avirons évoquant les innombrables pattes de quelque insecte géant, les six galères fondaient sur le village, sur lesquelles le capitaine Norcross courait de long en large en criant des ordres. Assis à son bureau, dans une petite chambre, il avait passé des nuits entières à imaginer et même à dessiner une multitude de scénarios. Bien entendu, il avait aussi consulté ses hommes, glanant des idées parfois brillantes et d'autres qu'il était beaucoup moins. Décidé à faire flèche de tout bois, il avait trié le bon grain de livret. S'il ne détenait pas la moindre étincelle de don, le jeune officier n'était pas manchot en matière de stratégie et de tactique. Gagnant le bout de la jetée sud, il regarda les trois gros navires manœuvrer pour être en mesure de prendre en tenaille les Norucailles. À bord du plus imposant, commandé par le capitaine Mills, des marins armés jusqu'aux dents se massaient sur le pont. Des deux tours de garde s'envolèrent des flèches incendiaires qui s'abattirent sur la galère de tête. Sur le pont, les Norucailles maîtrisèrent rapidement le feu, mais une voile s'embrasa et brûla comme de la paille. Trois esclavagistes ayant été tués par ce premier assaut, leurs camarades les jetèrent prestement par-dessus bord. Les cinq autres galères avançaient toujours comme des prédateurs affamés. Chantant d'une voix rauque, les Norucailles ne se tenaient plus d'impatience à l'idée de massacrer et de piller. Dans l'eau, des bouées de bois brillants marquaient une série de positions, mais les Norucailles ne leur accordèrent pas la moindre importance. Une grossière erreur, car les servants des catapultes, avec l'aide des ingénieurs, avaient étalonné leurs armes grâce à ces repères. Du coup, ils sauraient très exactement à quel moment tirer. Voyant les galères approcher de ses balises, Norcross ne put s'empêcher de sourire. « Catapultes !» lança-t-il. Répercuté de gorge en gorge, l'ordre atteignit les servants des armes de jet. Dans un grincement de cordes et de rouages, ils amenèrent en arrière le bras de chaque catapulte. Avec l'aisance née d'un entraînement rationnel, des pêcheurs aux bras musclés déposèrent dans chaque panier un gros rocher enduit de poids et l'embrasèrent. Dès qu'une galère eut atteint la première bouée, Norcross donna l'ordre de tirer à la catapulte correspondant à ce repère. Comme une comète, un rocher en flamme décrivit une grande parabole dans le ciel. Des cris de terreur montèrent de la galère quand le projectile s'écrasa dessus, brisant le mât et enflammant la voile, un coup de maître vraiment. Sous les applaudissements des défenseurs, la galère blessée dériva vers le sud. Malgré tous ses efforts, le timonier ne parvint pas à redresser le cap. Le bateau touché par des flèches était lui aussi en feu. Sa voile presque entièrement détruite, les mâts en flammes, il ne représentait plus vraiment un danger. Quand ils furent assez près des tours de garde à l'entrée du port, les Norucailles ripostèrent, lâchant plusieurs volées de flèches incendiaires. Les défenseurs, assez chanceux pour avoir un bouclier, se protégèrent. Parmi les autres, des dizaines tombèrent alors qu'il courait se mettre à l'abri. Sous une pluie de flèches qui se plantait autour de lui, Norcross se sentit très seul sur sa jetée. Les quatre galères intactes continuaient de foncer, insensibles au sort des deux autres. La plus rapide percuta le flanc de la jetée sud, sa proue y perçant un grand trou. Aussitôt, un flot de Norucailles se déversa du navire, les plus pressés sautant directement dans l'eau pour aller plus vite. En découvrant les esclavagistes, Norcross eut un haut-le-cœur. Conformément aux descriptions qu'il avait entendues, les Norucailles étaient répugnants avec leurs bouches fendues, leurs tatouages reptiliens et les diverses pics ou cornes implantées sous leur peau. Dans leur genre, ils valaient bien les morts-vivants de sous la canne que le jeune capitaine avait vus une seule fois. Une autre galère s'écrasa contre la jetée nord et vomit une horde de guerriers. Depuis les tours, les défenseurs les bombardèrent de flèches et de pierres. De leur position élevée, ils avaient une bonne chance de les massacrer. Norcross dégaina son épée. Malgré la nausée, il fonça vers ses proies, prêt à en découdre, les esclavagistes se fichant comme d'une guigne de leur perte, la boucherie menaçait d'être terrible. Le plus souvent, lors des raids, les hommes de corps pouvaient se comparer à des loups chassant des moutons trop gras et sans cervelle. Aujourd'hui, Renda sur Bay serait un tout autre défi. Décidés à se battre pour de bon, les villageois avaient aussi érigé des défenses inattendues. Cor rugit d'excitation. Ces chiens finiraient quand même par perdre, et la difficulté ferait du bien à ces guerriers trop enclins à s'endormir sur leur laurier. L'opposition, voilà ce qui faisait un combattant. Tout comme des îles rocheuses battues par le vent forgeaient des conquérants. En résistant, Renda sur Bay devenait un trophée de valeur et le capitaine ne demandait rien de plus. Tiré par la seconde catapulte, un rocher enflammé passa au-dessus de la galère de corps. Alerté par le sifflement du projectile, les rameurs du bateau visé, celui de Yorick, jouèrent des avirons avec l'espoir futile d'échapper à leur sort. Faisant trembler le mât, le rocher brisa la fusée de vergue et décrocha la voile du mât. Quand la galère de corps fut passée devant une de ces nouvelles tours de pierre, elle finit sa course contre la jetée la plus proche. Aussitôt, une poignée de guerriers l'y arrimèrent, histoire d'être sûrs de la retrouver après la victoire. Les autres sautèrent sur la jetée, puis coururent vers le quai, leurs armes prêtes à frapper. Très vite, ils se trouvèrent face à un groupe de soldats à l'air déterminé. Pas des villageois munis de pioches et de pelles, mais de vrais combattants bien équipés et armés. Leurs armes, Cor décida de se les approprier, même s'il fallait pour ça les arracher à leurs cadavres. Les deux groupes arrivèrent au contact. Ces guerriers, à l'évidence extérieurs à Renda-sur-Bay, n'avaient peur de rien et savaient ce qu'ils faisaient. Stupéfié, Cor vit tomber plusieurs de ces hommes dépassés par les compétences de leurs adversaires. Comme il convenait, les dépouilles étaient jetées à l'eau à coups de pied, histoire de faire de la place aux Norukai vivants. En matière d'armes, Cor restait fidèle à une hache de guerre, dont le manche, en guise d'embout, était muni d'une imposante massue de pierre. La maniant d'une main, il sauta à son tour sur la jetée et frappa à gauche et à droite. Avec le tranchant de la hache, il arracha l'épée des mains du premier soldat qu'il affronta, puis il lui fracassa le poignet avec la massue, le cogna au visage, et pour ne rien laisser au hasard, lui ouvrit le ventre avec la hache. Quand sa victime se fut écroulée, probablement raide morte, il lui plaqua une botte sur la poitrine et tira pour dégager son arme. Partout, les cris de rage et de douleur retentissaient au milieu du cliquetis des armes, une douce musique aux oreilles du capitaine. En haut des tours, les défenseurs jetaient des pierres, propulsaient des lances ou criblaient de flèches les fiers Norukai. De plus en plus surpris, Cor vit que des dizaines de braves tombaient sous les coups de ses chiens. Voyons, les choses n'avaient jamais été prévues comme ça. Alors qu'il pivotait sur lui-même, une flèche qui visait son cœur se planta dans son épaule. Quand il saisit la hampe à pleine main et tira, la tête barbelée lui arracha un gros morceau de chair. Dans la fureur de la bataille, il ne sentit pas la douleur. La première vague de Norukai, malgré la résistance des mystérieux soldats, avançait inexorablement vers le bout de la jetée. À terre, plusieurs maisons déjà incendiées lors du raid précédent et récemment reconstruites brûlaient comme des ballots de paille, les ravages des flèches incendiaires. À l'entrée du village, les défenseurs formaient un cordon pour interdire toute progression supplémentaire des Norukai. Parmi les soldats, Cor aperçut des villageois avec leurs pelles et leurs pioches, mais dans leurs yeux dansait une lueur qu'il n'y avait jamais vue. Ce n'était plus un ramassis de trouillards prêts à détaler au premier sang. Si étrange que ça paraisse, ces miteux avaient été entraînés fort bien si on en jugeait par leur résistance. Un détail sans importance, de toute façon ils finiraient par crever. Hache et lance brandies, les Norukai se jetèrent sur ces fâcheux. Comme d'habitude, ils en tuèrent une bonne dizaine en quelques secondes, mais cette fois les survivants ne se débandèrent pas. Sur la jetée d'en face, un officier, capitaine ou quelque chose comme ça, cria des ordres au moment où les deux dernières galères entraient dans le port, leur équipage pressé de se battre. De chaque côté de la baie, des villageois tirèrent sur des chaînes, afin que des poulies fassent émerger de l'eau une arme que Cor n'identifia pas au premier coup d'œil. Distrait par l'attaque d'un pêcheur barbu armé d'un crochet, il dévia le coup, l'esprit toujours concentré sur ce qui se passait devant lui. Frappant l'importun au visage, il le poussa ensuite de côté puis plissa les yeux pour mieux voir. L'arme qui émergeait de l'eau était un râtelier géant qui se positionnait lentement à l'horizontale sous l'action des poulies. Un nombre incroyable de lances et de piques en saillaient, orientés de façon à... En un éclair, Cor devina ce qui allait se passer. Hélas, il ne pourrait rien y faire.
« Non !» cria-t-il. « Changez de cap !»
Aucune chance que ça fonctionne. Lancée à toute vitesse, la première galère fonçait vers son destin. À la proue, plusieurs hommes crièrent des avertissements. Réagissant instantanément, les rameurs mirent leurs avirons à l'horizontale hors de l'eau, mais il était trop tard. Sur son air, la galère allait s'empaler sur l'arme infernale. Même de sa lointaine position, Cor entendit des grincements et des claquements au moment où les pointes acérées éventraient le bateau comme un poisson. Propulsés en avant, des dizaines de guerriers passèrent par-dessus bord, un grand nombre étant tué par les piques et les lances. La coque déchiquetée, la galère était fichue. Si elle ne risquait pas de sombrer puisque les piques la tenaient à flot, sa cale serait bientôt inondée. La moitié de l'armada transformée en épave. Des canots ayant enfin atteint la côte, D'autres norokais se lancèrent à l'assaut du village. À peine un pied posé sur le sable, ces guerrières et ces guerriers lancèrent des torches sur les bateaux de pêche qui mouillaient au port, puis ils chargèrent comme des fauves assoiffés de sang. À la tête de son groupe, Kaor tua indifféremment des villageois et des soldats. Enfin, ces hommes et lui purent s'enfoncer dans les rues. Des défenseurs par centaines. Pour l'essentiel, des minables du cru sortirent des bâtiments où ils se cachaient, attendant leur heure. Face à cette muraille humaine, la déferlante des norokais se brisa net. Indigné, Kaor hurla de rage. Conçu pour châtier Renda sur Bay après sa chanceuse victoire, ce raid tournait au cauchemar. Pourtant, les guerriers aujourd'hui comptaient parmi l'élite des forces du roi Calvaire. Leur mission des plus agréables consistait à tuer tout le monde et à tout brûler. Et où en était-on? 3 galères perdues, des villageois surexcités qui prenaient en tenaille le fer de lance de l'attaque. Le second de Kaor, grande gueule mais excellent combattant, venait d'abattre 3 villageois. Contre toute attente, 6 autres prirent leur place. Avec un crochet, un type lui arracha sa lance, la brisant ensuite en deux. Réduit à se battre au corps à corps, le norokai ouvrit sa bouche de reptile comme s'il voulait mordre ses adversaires à la gorge. Pas du tout impressionné, les villageois le firent tomber à genoux, puis le poignardèrent et l'achevèrent à coups de massue. Devant ce spectacle, Kaor éprouva un sentiment qui lui était jusque-là inconnu. La peur. Pour la première fois de sa vie, il envisagea la défaite. À l'extérieur du port, la galère de Yorick, touchée par le rocher embrasé, dérivait toujours, son gouvernail brisé sans doute. Mais 5 canots chargés de guerriers prêts à mourir au combat s'en éloignaient à toute vitesse et accosteraient bientôt. Les 3 gros navires qui gardaient le port, des voiliers d'un modèle que Kaor ne connaissait pas, se mirent en mouvement. Le vent les poussant, ils encerclèrent les canots, puis le nœud coulant se resserra inexorablement. En position idéale sur les ponts surélevés, des archers criblèrent de flèches les guerriers qui tentaient de rallier la terre. Catastrophe finale, un des 3 navires éprona la galère blessée. Quelques secondes plus tard, les marins ennemis passèrent à l'abordage. Cessant de regarder seulement les cadavres de défenseurs qui gisaient à ses pieds, Kaor pivota sur lui-même pour évaluer le désastre. Dans la rue, une 20aine de villageois fondaient sur lui et ils n'avaient pas l'air effrayés. Bien au contraire, leurs yeux brillaient d'une rage que le capitaine jusque-là avait seulement vue dans ceux de ses norokais. Reculant prudemment en quête d'une position plus facile à défendre, il vit qu'un groupe de soldats de l'autre côté du port venait de coincer une 20aine de braves. Pris au piège, ces hommes et ces femmes luttèrent vaillamment, mais ils ne tardèrent pas à succomber. Tirant profit d'un bref répit, Kaor regarda autour de lui et fit un rapide bilan. 3 galères perdues et 2/3 de ses guerriers partis rejoindre leurs ancêtres dans le royaume du gardien. C'était insensé. Si d'autres agglomérations apprenaient à se défendre ainsi, les norokais iraient de défaite en défaite. Comment était-ce possible? De glorieux esclavagistes mis en déroute par un village de pêcheurs? Toujours vivants, Lars et Yorick tentaient de ramener les guerriers encore debout sur les 3 dernières galères. Comme eux, Kaor devait donner l'ordre de battre en retraite. Pas pour sauver les imbéciles qui avaient pris une dérouillée, mais pour informer Calvaire de ce qui venait d'arriver. D'une voix rauque, il lança le signal que tous les norokais priaient pour ne jamais entendre de leur vie, celui du repli.
« Tous ceux qui le peuvent encore »
brailla-t-il.
« Regagnez les galères !»
Une fois au large, même les bateaux endommagés réussiraient tant bien que mal à atteindre l'archipel. Le feu qui brûlait dans leur cœur éteint, les guerrières et les guerriers n'étaient plus qu'une bande d'éclopés. Un instant, Kaor envisagea de rester où il était et de mourir en combattant. Un sort préférable à être sacrifié au dieu serpent lorsque Calvaire serait informé de ce fiasco. Mais c'était une dérobade indigne de lui. S'il ramenait ses hommes dans l'archipel, il pourrait revenir un jour et se venger. Calvaire devait savoir, et tant pis si ça lui coûtait la vie. Après avoir décapité un villageois qui le menaçait avec une pioche, Kaor ne le regarda même pas s'écrouler. Se détournant, il courut de toutes ses jambes en direction de sa galère. S'il l'atteignait, ce serait un miracle.